Une tuerie tes épinards, c'est toi qui les as fait ?
Non. Alors qu'est-ce que c'est le bio pour toi ? Est-ce que c'est juste un mode de production ou est-ce que c'est un mode de vie ?
Non, c'est une cohérence.
Et alors je me suis dit, j'avais un restaurant, je me faisais chier dans une espèce de fausse convivialité, c'est-à-dire tout le monde arrive en même temps et tout le monde s'en va en même temps, donc t'as pas parlé. Ouais. Et ce qui est important dans une construction de l'humanité, c'est la parole.
Bon, cette petite musique, c'est une tuerie tes épinards. Nous sommes mercredi, il est midi, sur Radio Éphémère. Et comme presque chaque semaine maintenant, non, pas la semaine dernière, c'était le ventre de la cuisine. La semaine dernière, donc cette semaine, c'est une tuerie tes épinards. Nous parlons toujours d'alimentation, comme toujours le mercredi. Et nous partons, puisque la lumière est revenue, nous partons à la découverte de nouveaux territoires, nouvelles envies, nouvelles aventures. Alors moi, j'ai découvert récemment, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai découvert ces gens qui vont plus loin que tous, plus loin que tout le monde, en alimentation, en régime. Non, ils ne sont pas végétariens, ils ne sont pas véganes. Non, ils sont carrément respirianistes. Oui, il y a des gens qui ont décidé tout simplement d'arrêter de manger. J'adore. Ils sont très très sérieux, ils sont très inspirés. C'est tellement sérieux que c'est à se demander s'il n'y a pas quelque chose en fait. Donc voilà, on va parler des respirianistes, mais pas seulement, nous allons parler des abeilles aussi. Voilà, alors pour démarrer, moi j'avais entendu cette petite... je m'installe un petit peu, excusez-moi. J'avais entendu cette petite, ce petit mode de vie très, très agréable de se dire, bah, tiens, au lieu de se nourrir d'alimentation bêtement, au lieu de manger des végétaux, au lieu de manger des animaux et tout ce que ça comporte comme problématique, à la fois en termes de ressources, d'agriculture, d'abattoirs, etc. Mais même pour les végétaux, enfin, ça, c'est une emprise terrestre extraordinaire. Nous avons donc ces gens qui se nourrissent de prana et donc de lumière directement. J'ai même entendu lors de mes pérégrinations sur Internet que c'était une lumière presque intérieure, puisque même dans un placard à balai, quelqu'un pouvait tout à fait vivre pendant des mois. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de vivre dans un placard à balai, mais bon. Alors bien sûr, ça a été testé par certains scientifiques, me semble-t-il, avoir lu ça il y a déjà pas mal de temps. Et les gens avaient vraiment du mal à survivre à ce respirianisme, à cette volonté de vivre uniquement de lumière et d'air. Mais philosophiquement, pourquoi pas. Alors, je suis tombé sur l'INRES. L'INRES, c'est un site internet avec des vidéos très qualitatives qui parlent de tous ces événements plutôt supranormaux. Et on entend sur l'INRES, il y a eu un reportage sur un monsieur très... Oui, à qui on peut faire toute confiance, puisqu'il a été infirmier et qu'il a découvert cette possibilité de vivre du prana. Et voilà, il nous explique dans une vidéo de l'INRES que je vais vous passer comment il en est venu là. Voilà, c'est le début peut-être. Et il me semble que c'est intéressant cette idée. Alors, est-ce que c'est vraiment l'idée de... Je me suis posé la question, bon, respirianisme, est-ce que c'est vraiment l'idée d'arrêter de manger ? Écoutons-le peut-être, prenez vos précautions, ne prenez pas tout pour argent comptant non plus, mais écoutons-le et je reprends la parole juste après.
Peut-on vivre sans manger ? Impossible, répondra la science.
C'est une vraie question.
Des femmes et des hommes bousculent cette certitude en se nourrissant exclusivement de lumière. Rencontre avec l'un d'entre eux. Si la lumière abrite nos origines, si elle peut nous soigner, est-il envisageable qu'elle puisse nous alimenter ? La question est posée. Gabriel Lescois habite en Lorraine. C'est un curieux de nature, attiré par l'irrationnel, par ce que l'œil ne voit pas. Et depuis 2012, devinez quoi ? Il ne mangerait plus que du prana.
Je me nourris de la lumière, je me nourris de l'instant présent, de méditation, de relations, de couleurs, d'odeurs. Et puis, de temps en temps, et c'est là où je peux difficilement donner un nombre de jours, je prends un peu de chocolat et un peu de champignons crus.
Un illuminé ? Pas vraiment. Infirmier de formation, Gabriel a pratiqué pendant plusieurs années dans la médecine, de la chirurgie à la gériatrie, en passant par l'humanitaire. Mais en 2010, un documentaire s'intéressant au respirianisme va troubler sa philosophie mécaniste.
Qu'un humain puisse vivre de lumière dépasse mon entendement, car nous ne sommes pas des plantes, nous sommes des êtres humains.
J'ai découvert fin 2011 le documentaire Lumière, alors que j'ai rejeté en bloc, parce qu'infirmier de formation, et d'un point de vue très cartésien, on ne peut pas vivre sans manger solide, donc j'ai dit c'est n'importe quoi.
La remise en question est profonde. Une interrogation s'impose. Est-il possible d'améliorer sa santé grâce au prana ? Jour après jour, son rapport à l'alimentation change.
Et puis j'aime bien raconter cette petite anecdote qui a été un point de départ important aussi et qui n'a pas été volontaire de ma part. C'est qu'en allant à cette époque, début 2012, où je mangeais encore, en allant dans une boulangerie pour aller acheter une espèce de pizza fougasse avec de la viande dedans, et j'ai vu, ou m'a été apparu, il m'a été donné de voir l'énergie de la mort. Et c'est-à-dire que j'ai vu une tête de mort se superposer sur cette nourriture à base de viande. Et là, ça a été radical, c'est-à-dire que de ce jour-là, je n'ai plus jamais mangé de viande. Et puis, ça a enclenché un processus de manger moins, où je suis passé progressivement de 3 à 2 et puis un repas par jour. Quasi naturellement, d'enlever à peu près tout, sauf les fruits et légumes. Et puis l'été 2012, de m'initier à la nourriture pranique et puis progressivement d'arriver à aujourd'hui à ne manger plus qu'occasionnellement chocolat et champignons.
Il s'initie à ce mode alimentaire qui devient vite une hygiène de vie, accompagnée d'eau et de tisane.
Alors moi je fais du sport, donc je vis tout à fait normalement, je ne suis pas un extraterrestre pour autant. Je fais du sport. Avec un petit niveau départemental de compétition, en l'occurrence du tennis de table. Je fais de la danse, je fais plein de choses, je conduis, je travaille tout à fait normalement. Par contre, j'ai besoin d'un certificat médical tous les ans pour accéder au sport. Et j'en profite pour faire une prise de sang. Et vous voyez mon sourire, je m'en amuse parce que à la dernière prise de sang, mon médecin qui regarde les résultats et puis avec son petit ventre bedonnant, qui dit « Bon, c'est vrai, t'as raison ». T'as raison, mais enfin de là à pu bouffer. Voilà, donc tout est normal. Je n'ai aucun déséquilibre et tout est parfait.
Formidable, il n'a aucun déséquilibre. Non, il mange juste des petits champignons de temps en temps avec un petit peu de chocolat. D'ailleurs, je ne vois pas l'alliance entre champignons et chocolat m'échappe un petit peu. Je ne vois pas le lien entre les deux en termes de nutrition, mais admettons. Donc, c'est vous pouvez trouver cette vidéo en ligne. L'INRES, donc, c'est vraiment... ça fait partie de toute cette mouvance de sites qui surfent un petit peu sur le paranormal, l'étonnant, le mystérieux de la vie. Alors, on avait des religions avant qui nous intégraient le mystère de la vie, mais alors, bien sûr, à mesure que les religions se retirent, ce genre de structures peuvent se développer avec des discours relativement cohérent. Alors là, on trouve en plus quelqu'un qui... Alors, il a une formation d'infirmier, on peut écouter, et en même temps, il est chirurgien. Bon, moi, je me pose des questions quand même. Il dit de manière très, très douce, comme ça, oui, mais pas besoin de manger. formidable. Alors je crois que dans une autre vidéo, il y a aussi une personne qui nous dit mais quelle liberté, on n'a plus besoin de manger. C'est vrai, c'est formidable. Moi j'aime bien cette idée qu'on n'ait plus besoin de manger. Bah, par exemple, à midi et quart, au lieu de vous préparer une petite omelette, par exemple, avec des aillets, ce qui est un peu la période, c'est la période des aillets. Non, bah non, vous sortez dehors, prenez un peu la lumière. Même vous pouvez le faire dans un placard à balai et ça va vous nourrir. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes, il faut le dire. Il y a des gens qui ont pris ces... parce qu'il y a une sorte de gourou au respirianisme qui explique qu'en quelques semaines, je crois même en 7 jours, on peut devenir respirianiste. Il faut ne plus manger pendant 7 jours et surtout ne plus boire. Donc bon, autant on peut ne pas manger pendant 7 jours, on peut appeler ça un jeûne, mais ne pas boire pendant 7 jours, ça devient vraiment compliqué. Et du coup, il y a eu des décès. Oui, il y a eu des décès quand même, il faut bien le dire. Il y a eu des décès. C'est pas vraiment quelque chose... Enfin, je pense qu'il faut une véritable préparation. D'ailleurs, je crois que les gourous du respirianisme expliquent bien que si les personnes sont décédées, c'est qu'en fait, elles n'étaient pas en capacité vraiment de se nourrir du prana. Voilà. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que le prana? Oui, parce que vous avez une page, c'est possible. Donc le prana, en fait, c'est un nom composé et complexe car elle intègre simultanément les notions de souffle et de principe vital du souffle et de sa manifestation organique dans la respiration qui pense souffle vital respirant, énonce le mot prana. De là à s'en nourrir, vous voyez, il y a quand même... Donc c'est effectivement un concept qui est présent dans l'hindouisme. Une énergie vitale universelle qui imprègne tout et que les êtres vivants absorbent par l'air qu'ils respirent. Pour autant, se nourrir de prana, ça paraît un petit peu poussé, un peu tiré par les cheveux. Moi, je dirais, c'est un peu tiré par les cheveux. Les plantes se nourrissent effectivement de lumière et pas seulement. Elles prennent aussi des minéraux dans le sol. Donc déjà, même les plantes, elles ne sont pas complètement associées simplement à la lumière. Les animaux mangent les plantes. Nous mangeons donc des plantes. Bon, très bien. Nous mangeons aussi les animaux. Bon, enfin, là, ça, on peut se poser des questions sur manger des animaux. Mais manger des plantes, bon, ça paraît encore indispensable. Voilà. Donc, j'ai l'impression que peut-être, ça peut être intéressant comme une forme d'aspiration, de dire tiens, on va respirer, on va prendre le temps, on va respirer tranquillement. Ça pourrait se rapprocher du yoga. On va manger un peu moins. Ce qui est une bonne chose, de manger un peu moins dans nos sociétés hyper consommatrices. Manger moins me paraît vraiment intéressant. Mais de là, ne plus rien manger, on peut se poser la question. Voilà. Donc on va aller à autre chose maintenant. Une petite pause musicale, il est midi et 15 minutes. Nous allons quitter ce monde du respirianisme et revenir à des choses qui sont plus du quotidien, de ce que l'on connaît. On va parler un petit peu des abeilles. Mais avant, on va écouter Gold. Oui, Gold, ce vieux groupe qui a écrit certainement il y a longtemps « Ville de lumière ». Voilà, c'est toujours un petit peu expérimental, bien sûr, les choix musicaux, puisque c'est en phase avec ce qu'on est en train de raconter et à ce que propose l'algorithme sur Internet de YouTube. Mais pourquoi pas, moi je trouve, voilà, on va écouter Gold, Ville de Lumière, tout doucement. Je ne mettrai peut-être pas trop fort, on va voir. D'ailleurs, je trouve qu'on ne m'entend pas beaucoup là, voilà, il faudrait peut-être monter un petit peu. Oui, c'est mieux là, comme ça. Allez, à tout de suite. Vous êtes sur le 89.1 MHz, il est midi et 17 minutes, Gold, Ville de Lumière. Et voilà, c'était Gold, Gold Ville de Lumière. Gold Ville de Lumière. On ose tout sur Radio Éphémère. Vous êtes dans le 89.1 MHz. Et nous continuons. Alors, pour enchaîner entre la lumière, le prana et les abeilles, j'ai rencontré un personnage absolument fantastique qui s'appelle Thierry Casmage. Thierry Casmage, il est apiculteur, il est agriculteur. Il s'intéresse, je ne pense pas au respiranisme, mais il va s'intéresser au chamanisme, il va s'intéresser à toutes ces traditions, à l'énergie, à la géométrie de la vie. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années. Il avait un projet justement de développer un rapport au miel un petit peu différent. Afin notamment d'exploiter moins ces abeilles. Alors déjà, elles sont depuis toujours exploitées, parfois surexploitées, mais en plus, on leur a rajouté tout un tas de problématiques avec nos différents produits chimiques, nicotéodons. Là, le nom ne me revient plus exactement, mais voilà, toutes ces problématiques qu'on connaît qui font qu'énormément d'essaims meurent chaque année, parfois 50%. Du cheptel, parfois plus d'un apiculteur, vont disparaître. Donc, lui a essayé, justement, suite à la déperdition d'énormément d'abeilles, de passer à autre chose, de passer à un autre rapport aux abeilles et donc au miel. Ça veut dire qu'il continue à faire de l'apiculture, mais il fait une apiculture chamanique pour un miel précieux. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il s'est installé en 2001 avec 80 ruches et en fait, il faisait l'apiculture biologique déjà depuis une vingtaine d'années, enfin maintenant depuis 20 ans. Il avait commencé en 1998 et lorsque je l'ai rencontré il y a quelques années, il était désespéré de découvrir que des mortalités répétées avaient lieu. 1000 ruches mortes en 10 ans, pour lui, c'était plus possible de continuer dans ce sens-là. Et étant issu d'une famille de radiesthésistes et chercheurs dans l'âme, il a commencé à utiliser des rituels chamaniques et énergétiques, des reiki. Il a remarqué alors que les comportements de douceur chez l'abeille intervenaient à partir du moment où il réalisait ses rituels. Et il a commencé à développer cette notion d'apiculture chamanique. Il a réalisé alors quelque chose de plus, peut-être le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'on peut aller sur un champ dans son domaine à Cobiac, en Haute-Garonne, pas très loin d'ici, et y découvrir un champ en cercle avec à la fois les ruches, des arbres, puis différentes plantes qui vont permettre bien sûr aux abeilles de se développer. Peut-être on pourrait l'écouter un peu, c'est un extrait, alors c'est peut-être pas exactement dans le contexte, ça va peut-être pas être très clair, mais on va au moins entendre parler de son travail avec les abeilles. C'était il y a 5 ans, je l'ai enregistré, je vais pas retourner le voir, et il faudrait quand même. Voilà, on va l'écouter un petit peu, et puis on se retrouve juste après. Thierry Casmage, vous pouvez le rencontrer aussi pour vous, si vous êtes sur Toulouse. À Saint-Aubin, le dimanche matin, il propose ses miels, notamment. Allez, on revient après.
Je ne comprends pas. Après, j'écoute l'agressivité de l'abeille. Après, je parle visuel et en même temps par mon ventre, quoi. Par ouais. Mon ressenti, bon, par l'émotionnel, quoi. Ouais, et puis après, voilà, je vois les signes, quoi. Dès que ça commence à être un peu trop calme, bon, voilà, faut remettre un petit peu les fumées. Bon, là, je vais enlever cette hausse là. Tu vois, bon, ça c'est une ruche. Bon, c'est des ruches qui sont là depuis un moment. Les abeilles qui sont là depuis un moment. Bon, celles-là, elles sont passées par des aventures périlleuses. C'est ce qui me reste, quoi. BTY, c'est un apiculteur, quoi, qui est décédé. Donc c'est quelques souches qui sont restées. Après, génétiquement, je ne sais pas si c'est de la noire ou pas. C'est du croisé. Bon, moi je me dis c'est bon, c'est les résistantes. Et je savais cela. Pour moi, c'est les rustiques. Hein. C'est ce qui reste de tout ce qui est passé, des périodes difficiles. Quoi. Alors attends, là, je vais défaire la hausse. je vais la poser devant. Moi, je me sers, tu vois, c'est... Bon, ben là, c'est pas cool, c'est vrai qu'il y a de la fourmi. Mais après, la fourmi, comment dire, c'est pas grave, même si elle va à travers la, la ruche. Oh punaise, c'est vrai que ça va pas être agréable pour moi. Oh là 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 là. Alors attends, je vais faire ça. Parce que ça va pas être agréable pour moi. Les fourmis vont aller un peu plus loin. Parce que là, en fait, elles piquent et les fourmis dégagent de l'acide formique. Et en fait, l'acide formique, c'est bon pour le varroa. Il y a des traitements qui se font, en fait, grâce à l'acide formique. Bon, naturellement, les ruches qui sont en compagnie avec des fourmis, ben, du coup, il y a des dégagements d'acide formique. Tu vois, là, c'est une reine qui me mord, une reine fourmi.
Ah oui, d'accord.
Donc, mais ben, dis donc, elles sont pas contentes. Hein. Bah, je suis désolé, je suis avec des abeilles, pas avec des fourmis. Je ne peux pas être avec tout le monde. Donc voilà, là je vais juste la poser en bas. Et... Parce que ça, effectivement, là, celle-là, elle est pleine. Quoi. Là, je le sais parce que je l'ai regardé. Ça pèse. Je pose comme ça, c'est pour éviter de, tu vois, c'est pour éviter d'écraser les abeilles. Ouais, peut-être fais attention. C'est le noir du micro qu'elles n'aiment pas. Quoi. Ouais, mets-toi un peu plus sur le côté. C'est le noir du micro qui risque de. Ouais. En plus, ouais, voilà, il vaut mieux laisser le passage. Parce que moi, j'ai les fourmis qui me piquent les pieds. Bon, je leur mets la hausse là. Et bah, parce qu'en fait, faut pas s'éterniser quand même. C'est mieux pour elles. Mieux pour elle et mieux pour nous. Merde. Ouais, j'ai des fourmis qui me piquent. Là, c'est pas le même là. Ah. J'ai plein de fourmis. C'est un peu comme dans les films là que les fourmis envahissent. Bon, ben, c'est de l'acide fourmique. Hein. Hop. Ah salope. C'est les fourmis qui m'ont piqué. C'est pas les abeilles.
C'est pas les abeilles.
Non. Ah, c'est pas agréable. Bon, mais puisque c'est ça, je remets pas. J'ai quand même une abeille qui est rentrée dessous. Là. Mais c'est pas grave. Je vais la sortir par là. Trop tard, elle m'a piqué. C'est pas grave. Je referme alors. Je voulais la sortir, tu vois, je voulais la sauver. Ça, c'est signe qu'il ne faut pas s'éterniser. Voilà. Hop, c'est bon, ça, je laisse comme ça. Voilà. Donc, je m'écarte. Bon, ben, elle a piqué. Hein. Quand même beaucoup de fourmis. Hop.
Ah, il t'en a beaucoup, ouais.
Ce qui serait bien, c'est que je me les enlève. L'abeille, je sais pas par où elle est rentrée, mais bon. Bon, le geste, enfin, le geste que je fais attire les abeilles, parce que c'est un geste plutôt de peur, tu vois. C'est pas un geste cool. Tout geste brusque à un moment donné. Bon, j'espère qu'elle a piqué parce qu'il y en a une qui m'a piqué là. Et comme elle se rapproche de mon sexe.
Ah oui, c'est pas bon.
Non, pas trop.
C'était pas une question.
Ah. Putain, mais par où elle passe quoi?
Elle est encore là?
Ouais, mais il y en a une qui m'a piqué.
Voilà, donc on était avec Thierry Casmage à Cobiac. L'oasis des abeilles, ça s'appelle. L'oasisdesabeilles.fr, l'apiculture chamanique. Donc, ouais, on peut dire qu'il y a, Il a mis en place ce cercle, une structure géométrique dans un champ basé sur la cellule d'abeille. 12 emplacements de ruches sur lesquels la géobiologie et l'énergie sont ajustés à l'énergie des abeilles. Les ruches situées en dehors de cette structure sont également reliées énergétiquement au cercle. Donc des soins énergétiques sont pratiqués tous les jours sur le périmètre de butinage des abeilles pour améliorer leur santé. Ouais. Bon là, elles avaient l'air bien bien en forme hein, déjà. Toutes les ruches sont suivies en agriculture biologique et en énergétique. Tous les produits de la ruche sont récoltés en accord avec les abeilles de façon chamanique afin de préserver les vibrations d'amour, ce qui leur donne un niveau vibratoire très élevé. De cette manière, il a obtenu des miels précieux. Voilà, programme de la mise en peau pour agir sur les plans subtils afin qu'ils s'adaptent à chaque personne et harmonisent les différents corps énergétiques. Ouais, on est dans un intermédiaire entre... qui est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup, y compris dans le vin, dans les vins naturels, par exemple avec la biodynamie. On est à la limite à la fois de la science, du spirituel. On intègre du spirituel et en même temps on vend des produits, hein, puisque l'Oasis des abeilles qu'a monté Thierry Casmage propose ses miels à la vente, presque comme des soins, comme des produits cosmétiques. Alors bien sûr, il ne va pas monter une structure comme L'Oréal, par exemple, ou Fabre, je ne pense pas qu'il va aller vers ça, mais il va proposer voilà, des miels rituels, l'unité en soi, l'équinoxe de printemps, l'union sacrée, la pleine lune, la nouvelle lune, la solstice d'été. Donc tout ça, ce sont des différents miels qui proposent aussi de vous aider à vous harmoniser dans un monde de brut. Bon, on remarquera que ces abeilles à l'écouter sont quand même très très présentes, parfois un peu nocives. Bon, et en plus, il y avait les fourmis. Il faut savoir que sur son lieu, il a essayé de développer toute une biodiversité et de vraiment laisser tous ces insectes vivre dans une forme de liberté sans une surexploitation. D'où cette transformation de simple apiculteur à apiculteur chamanique. Mais voilà, c'est quand même une vision de la Terre qui me semble intéressante. Mais quittons l'oasis des abeilles. Et peut-être avant de venir, je voulais vous dire, oui, les abeilles, on le sait pas, mais elles sont sensibles à certaines couleurs, puisqu'on parle toujours de lumière. Elles distinguent en l'occurrence trois couleurs, le bleu, le vert et les ultraviolets. Les autres couleurs leur apparaissent en noir. Les dégradés de bleu et de vert leur apparaissent avec un décalage de teinte par rapport à notre vision. Par exemple, le jaune leur apparaît comme du vert, plus ou moins pâle. Et nous avons constaté, donc ça c'est le site de l'IMCRI qui parle de ça. L'IMCRI, c'est un site donc sur les abeilles, hommes et abeilles. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué ? Constaté sur nos différents ruchers sur plusieurs saisons que très régulièrement les ruches bleues marines étaient les plus puissantes. La raison peut-être est que les abeilles repèrent mieux ces ruches et par là même sont moins affectées par le phénomène de dérive qui est constaté sur les ruchers. L'ultraviolet ne peut être perçu par nos rétines, à nous. Seule la haute technologie le permet. Les fleurs illuminées par des ultraviolets dévoilent des dessins utiles aux abeilles pour mieux les guider vers le nectar. Ces guides à nectar sont plus ou moins visibles pour l'homme sur des fleurs comme les pensées, par exemple. Ces guides permettent à des fleurs rouges, le coquelicot par exemple, moins visibles pour les abeilles, de compenser cette faiblesse par leur pollinisation. En tout cas, ce qui est sûr, d'après ce site, c'est que les abeilles butinent les fleurs multicolores, non pas les autres, par exemple pas le pin, pas le sapin, pas le chêne. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Alors dans le genre, comme on met des pesticides partout, les abeilles butinent. Les abeilles butinent, elles sont heureuses. À Cuba, parce que Cuba, pendant longtemps, ils n'ont pas eu accès, a priori, à tous ces produits chimiques importés des États-Unis. Vive l'embargo. A priori, ça ne devrait pas durer longtemps, à moins qu'ils se ressaisissent. En tout cas, aujourd'hui, le miel cubain ravit toute l'Europe. Dans les vallées de la province de Matanzas à Cuba, les abeilles virevoltent au grand air sans la menace des pesticides qui déciment leur population dans le reste du monde. Cette pureté de leur environnement est un régime riche en fleurs, sont à l'origine d'un miel convoité en Europe. Ah, bien sûr, il y a quelques businessmen qui se sont mis là-dessus. Par exemple, les frères Fundora, rois de l'apiculteur sur l'île, affichent des rendements jusqu'à 3 fois supérieurs, allant jusqu'à 160 kg de miel par ruche. Il n'y a pas de miracle, dit un travailleur, mais beaucoup, beaucoup de travail. Un travailleur qui s'en relâche Et sur les ruches, pour changer la reine, sélectionner les abeilles, faire tourner les nids. Santiago, le visage tanné par les nombreuses heures passées à travailler au soleil, est fatigué. Mais bon, 95% de la production est exportée, bien sûr. Hein, pourquoi les Cubains en profiteraient ? Et donc, malgré ces 8800 tonnes de miel produites en 2018, soit 1300 fois plus que l'objectif visé par l'entreprise apicole cubaine Apicuba Public, Cuba reste bien loin derrière l'Argentine, premier producteur d'Amérique latine, avec 76 000 tonnes de miel en 2018. Il faut dire que l'Amérique latine, l'Argentine, c'est quand même beaucoup plus grand en surface que Cuba. Voilà, une petite information. Est-ce qu'il faut aller vers le chamanisme et qu'il faut arrêter les produits chimiques ? Bien évidemment, il faudrait. Ce serait préférable, même si ce n'est pas d'actualité. Tiens, alors moi, je vous propose là, peut-être, pour continuer dans l'esprit de la lumière, il est midi et 37 minutes, Gérard Manset, Lumière de Gérard Manset. Et oui, Gérard Manset, c'est un chanteur pas si connu que ça, qui fait quand même de très belles paroles. Moi, j'aime beaucoup écouter Gérard Manset. Profitons-en, écoutons-le, Gérard Manset, Lumière.
Se rappelle. mais où sont passées, sont passées les lumières qui nous guidaient. Devenu statue de pierre. Qu'avons-nous fait? Les instants comme des clous de fer.
Cancer là, là et là.
Et rien que le bruit de la mer. Seule réponse. Souviens-toi c'était hier. Mais aujourd'hui, le lion secoue sa crinière. Peur de la nuit, gratte le fond de la rivière. Il venait boire. Nous avons perdu la lune. Nous sommes dans le noir.
Voilà, Gérard Moncey, Lumière. Oui, Lumière, il faut arrêter là parce qu'il y en a pour 11 minutes, on ne s'en sort plus. Il est midi et 45 minutes, on a bientôt terminé. Alors, pour finir, moi, je voulais vous dire, qu'est-ce qui se passe? Comment on sauve les abeilles? Alors, dans la région, par exemple, on a le syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées qui, normalement, fait une foire bio, une foire dédiée au miel à Toulouse chaque année, mais qui ont dû l'annuler cette année pour des raisons qui ne sont pas particulièrement expliquées, je crois. Et ils proposent plein de choses, le syndicat. Ils proposent d'adhérer, bien sûr, pour soutenir l'action des apiculteurs, mais ils proposent aussi d'installer des ruches sur votre collectivité ou votre entreprise. On peut aller sur apiculteur-midi-pyrénées.fr et vous avez plus d'informations là-dessus. On peut aussi parrainer apparemment des ruches. On peut faire des donations. Voilà. Ils se bougent pas mal. J'aimerais bien les recevoir et peut-être pour la prochaine foire, on fera quelque chose avec eux. Ensuite, à Saint-Gaudens ou pas loin de Saint-Gaudens, il y a un apiculteur qui, pour sauver les abeilles, a décidé d'envoyer gratuitement des graines. Des graines de trèfle, je crois. Jour après jour, on se rend compte que les abeilles disparaissent, notamment les abeilles pollinisatrices. Or, le trèfle est génial pour les abeilles, dit-il, puisqu'il offre du pollen et du nectar pendant toute la saison estivale. Voilà. En avril, Nicolas, donc l'apiculteur, avait perdu 2 millions d'abeilles. Alors, on est encore dans un autre ordre de grandeur, quoique il avait perdu des milliers de ruches, Thierry Casmage, donc ça doit revenir à pas mal de millions d'abeilles également. Donc lui, il a décidé de faire ça. Une cagnotte avait été mise en ligne pour aider à payer les frais Les frais du procès, oui. Il y a eu une opération d'épandage, effectivement, d'un agriculteur qui hébergeait ses ruches sur son terrain. Voilà pourquoi il a fait un procès. Et ils ont récolté, donc, avec cette cagnotte, près de 4000 euros. Donc, ils ont acheté, avec l'argent qui restait après les frais d'avocat, hein, merci l'avocat, 60 kilos de graines de trèfle à une coopérative près de chez eux. Voilà, donc après, ils ont proposé donc d'envoyer des graines un peu partout en France. Et un autre article que j'avais lu montrait qu'ils avaient reçu près de 60 000 demandes. Je crois que c'est le chiffre un peu extraordinaire. 40 000 lettres triées en un seul week-end. Donc oui, 40 000 demandes, déjà, c'est énorme. Et ça, ça avait lieu il n'y a pas très longtemps en Comminges. C'était le 17 mars 2019. Donc, cet apiculteur du Comminges pose 60 000 lettres destinées à sauver les abeilles. Je suis pas sûr entre 60 000 et 40 000. On va pas lire dans le détail maintenant. Vous pouvez aller vous-même à la recherche de ce genre d'informations. Voilà, il est midi 47 minutes. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de finir avec Arca. Arca, c'est un groupe français plutôt électro. Alors, en cherchant miel, je suis tombé sur piel, la peau en espagnol. Et ça m'a l'air assez chouette. Donc, on va passer Arca piel. Et vous retrouverez normalement ce podcast sur le site de Radio Éphémère, radio-éphémère.net. Dans la partie programme, vous allez à mercredi, c'est une tuerie des épinards. Et là, vous retrouvez pas mal de choses, 75, 80 émissions maintenant. On ne les met pas toujours en ligne, mais on essaye de le faire régulièrement. Et vous pouvez aussi aller sur la page Facebook, c'est une tuerie des épinards, sur la page Facebook. On y met parfois des informations et puis les podcasts qui sortent et d'autres petites choses quand on a le temps. À très bientôt, bon appétit à vous et puis donc Arca Piel pour finir cette émission. Thank you.
with you.